Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
À 8h21, le calvaire d'Alep se poursuit. On écoute le témoignage de deux Alepins. C'était le 24 septembre dernier.
Tôt ce matin, ils nous ont frappés avec un missile. Sept enfants et leur mère sont morts. Et il y a encore des gens ensevelis.
J'en appelle aux gens compétents. Venez, aidez-nous. On meurt. Le siège, les destructions. Ils frappent et ils tuent. Puisse Dieu leur faire payer ça.
Renaud Girard est dans ce studio, il est grand reporter au Figaro, il a publié un article dans le débat dont le titre est
« Sachons désigner l'ennemi principal ».
Lequel n'est pas, vous l'entendrez, Vladimir Poutine pour Renaud Girard. En face de vous, Renaud Girard, Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris et vous avez un blog, il s'intitule Vendredi arabe. Vous avez publié un ouvrage intitulé Syrie, la révolution orpheline en 2014. On compare beaucoup en ce moment la ville d'Alep à Guernica. Que vaut selon vous cette comparaison ?
Oui, je pense que c'est plus qu'une métaphore. Alep aujourd'hui, c'est une ville qui est bombardée par les Russes et par le régime syrien, visant surtout les civils, visant les hôpitaux, visant à détruire toute possibilité de vie dans les quartiers est. Et donc la barbarie qui s'abat sur Alep, le viol du droit international, des conventions de Genève, le fait que les Russes et le régime syrien sont depuis des années impunis, dans le sens où ils commettent des crimes de guerre selon Amnesty, selon Human Rights Watch, selon les commissions des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Rien ne se passe au niveau des conséquences de leurs crimes de guerre et voire du crime contre l'humanité qui se commet en Syrie en général. Ça rappelle Guernica, ça rappelle la passivité des pays occidentaux qui a permis au fascisme rampant de gagner plus tard du terrain. Et c'est exactement le cas aujourd'hui avec un Vladimir Poutine et avec Bachar el-Assad et les régimes despotiques pareils.
Mais alors, jusqu'où suivriez-vous la comparaison, puisque Guernica, c'est un terrible massacre, c'est aussi finalement le signe avant-coureur du fascisme qui vient. Quelle serait l'étape après Alep, en quelque sorte?
Oui. Depuis septembre 2015, quand la Russie a sauvé le régime Assad après une série de défaites militaires qu'il subissait, bien qu'il était déjà et depuis des années soutenu par des dizaines de milliers de combattants djihadistes chiites venant du Liban, Hezbollah, de l'Irak, le mouvement Nujaba et Abu al-Fadl al-Abbas, des milices Hazara afghans, donc des mercenaires que l'Iran mobilisait pour soutenir le régime. Et malgré cela, il subissait des défaites face à la révolution syrienne, face à la rébellion, qu'elle soit islamiste ou pas, ça c'est l'affaire de la société syrienne. Donc après toutes les défaites, Vladimir Poutine, le 30 septembre, a décidé de sauver le régime, de retourner en force sur la scène moyen-orientale, sauf qu'il ne retourne pas en tant que puissance politique, parce qu'en tant que puissance politique, il n'avait pas une présence importante. Il retourne à travers les bombes, à travers le bombardement et cette intervention militaire qui, je le rappelle, a visé à 81% des raids, selon le Institute for War, la population civile et les rebelles syriens. Seulement 19% visaient Daesh et autres groupes qualifiés de terroristes. Donc, cette intervention-là crée aujourd'hui un nouveau rapport de force en faveur de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine. Mais cela ne va pas mener à la fin de cette guerre-là. La question d'une solution militaire ne peut pas se réaliser, même s'il y a aujourd'hui une possible reprise de certains quartiers d'Alep, même si le régime a pu progresser dans certaines localités autour de Damas. Mais c'est assez symbolique, en fait. C'est qu'à chaque fois que le régime prend une localité, cela se fait après un siège, après une famine, après un bombardement et après le départ de tous les civils de cette localité. Donc le régime, et ça c'est la stratégie de la terre brûlée, ne peut pas récupérer une partie peuplée parce que la population est opposée à ce régime-là. Donc il doit vider chaque région après l'assiéger, la bombarder, l'affamer, afin de pouvoir la récupérer. Et donc, on est dans un processus très long, très violent, avec plus de violations de droits de l'homme et du droit international, et donc avec plus de possibilités de radicalisation chez certains groupes, ce qui ne va pas garder ce conflit juste dans ses frontières syriennes.
Que faut-il faire, Ziad Majed ? Est-ce qu'il faut une intervention occidentale à Alep ?
Le problème, quand on évoque les interventions, on oublie qu'il y a toutes sortes d'interventions déjà en Syrie, sauf ce sont des interventions qui n'ont pas un horizon politique. Les Russes interviennent directement depuis septembre 2015. Les Iraniens interviennent depuis août 2012. Les Américains depuis août 2014, mais en visant Daesh. Les Européens dans la coalition internationale ont une certaine présence. Donc tout le monde intervient en Syrie, mais pas pour sauver la population syrienne, mais plutôt pour des enjeux reliés évidemment à des intérêts géostratégiques qu'on peut analyser et comprendre. Les occasions ratées en Syrie ont mené à ce qu'on vit aujourd'hui, au calvaire des Syriens et à la montée de Daesh. Et tous ceux qui, aujourd'hui, en France ou ailleurs, défendent le régime Assad et font la propagande de la Russie, contribuent au prolongement de cette catastrophe humanitaire et politique en Syrie et pourront contribuer, et ça c'est pas la première erreur occidentale, il y en a eu plein dans les décennies passées où on préférait toujours soutenir un régime despotique, voire fasciste, pour ne pas voir émerger des islamistes. Et finalement, à chaque fois, on voyait des islamistes encore plus extrémistes émerger, et donc on répétait les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on peut faire plusieurs choses. Premièrement, des zones de protection des civils, des zones de non-bombardement, pour ne pas dire no-fly zone, parce que no-fly zone, ça veut rien dire. Tous les avions du monde sont dans le ciel syrien. Mais une zone de non-bombardement, de buffer zone, qui peut protéger une partie de la population et créer peut-être une certaine expérience politique gérée, parce que le régime et les Russes et les Iraniens ont tout fait pour que chaque région que l'opposition libère soit détruite, son infrastructure visée, les hôpitaux, les boulangeries, les écoles, afin de ne pas permettre à un laboratoire politique, une expérience politique pour dire que face au régime, il n'y a que le chaos et les extrémistes. Deuxième chose, envoyer des missiles anti-air à l'opposition par la Turquie, par certains acteurs régionaux, parce que les missiles anti-air, c'est pas seulement un atout guerrier, dans le cas syrien aujourd'hui, c'est surtout un atout pour protéger la population civile face au massacre de l'aviation russe et l'aviation du régime. Et troisième chose, on peut faire des tribunaux spéciaux pour la Syrie. Il y a aujourd'hui des dizaines de rapports documentés sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité. Il y a, selon plusieurs rapports, 10 prisonniers qui meurent chaque jour dans les geôles du régime Assad, juste à Damas, de famine, de torture. Ça, au niveau légal, on parle d'un crime contre l'humanité. Les bombardements des hôpitaux, il y en a des dizaines d'hôpitaux qui sont visés directement par l'aviation russe. Il n'y a pas d'erreur ou un dégât collatéral, comme on l'appelle. Donc, il faut des tribunaux spéciaux afin de conduire ceux qui commettent les crimes de guerre, qu'ils soient du côté du régime ou parfois du côté de certains groupes de l'opposition, et évidemment de montrer aux Russes qu'il y a une fermeté, parce qu'avec les hésitations occidentales d'un côté, avec l'extrême droite et une partie de l'extrême gauche, et certains analystes ou certains spécialistes autoproclamés du monde arabe et de la Syrie, qui regardent le peuple syrien comme si c'est juste des figures et qui, pour eux, la vie des Syriens ne compte pas. Ça révèle un racisme profond. Il faut montrer aux Russes qu'il y a une priorité aujourd'hui d'arrêter ce massacre-là et de passer à une vraie solution politique et non pas une solution imposée par les Sokhoï et les MiG de l'armée russe.
Renaud Girard, votre réaction par rapport à ces propositions, est-ce qu'il est possible de contraindre les Russes, les Syriens, à s'asseoir autour d'une table
Le régime syrien.
Alors attendez, reposez-moi la question.
Est-ce qu'il est possible de contraindre aujourd'hui un certain nombre des protagonistes, donc effectivement le régime syrien, les rebelles modérés, puisque si les rebelles modérés ne s'assiedent pas autour d'une table, je ne vois pas comment vous pourriez avoir un cessez-le-feu, les Kurdes qui sont également des protagonistes dans la région. Bref, est-ce que ces différents groupes qui ont des intérêts a priori divergents, peuvent avoir un intérêt convergent qui pourrait les conduire à faire la paix.
Alors, moi, je repose mes trois conditions d'une intervention occidentale. Le régime Bachar, qui a quand même du soutien, parce qu'il a quand même une armée, alors qui a subi des défaites, comme vous l'avez dit, mais qui a repris du poil de la bête, grâce effectivement à ses alliés. Vous n'avez pas mentionné simplement dans votre brillant exposé que la Turquie, l'Arabie Saoudite, était quand même aussi très impliquée dans ce conflit. Je ne sais pas pourquoi vous ne les avez pas nommés, mais c'est quand même important dans un exposé de 10 minutes d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut effectivement essayer de transformer la Syrie en grand pays démocratique. Ça a d'ailleurs été fait, parce qu'il y avait un méchant moustachu, un méchant dictateur, qui s'appelait Saddam Hussein, et les Américains ont envahi l'Irak en 2003 en nous expliquant qu'ils allaient faire le grand Moyen-Orient démocratique, mettre la démocratie. On sait ce qu'il en est devenu.
Alors, il y avait aussi un autre méchant moustachu qui s'appelait...
Kadhafi, on a fait la même chose. On a dit, il va y avoir un grand massacre à Benghazi. Nous intervenons militairement. On a vu ce qui s'était passé.
Alors, vous êtes sûr qu'on a vu Renaud Girard ? Parce que là-dessus, on dit, vous dites, car je vous lis, que cette intervention en Libye a été une catastrophe. Or, ce que l'on reproche aujourd'hui au président Obama, c'est de ne pas intervenir en Syrie, et les critiques se font de plus en plus vives. Est-ce que si nous n'étions pas intervenus en Libye, nous n'aurions pas aujourd'hui une situation pire ?
Barack Obama aurait pu effectivement faire la guerre en août 2013. La question s'est posée. La Chambre des communes britannique a refusé l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, mais il aurait très bien pu effectivement décider d'une entrée en guerre des États-Unis. Simplement, il aurait eu un petit problème. C'est de dire, qui je choisis ? Je prends la Syrie, vous savez, l'armée syrienne ne va pas résister beaucoup à l'armée américaine. Je mets qui ? Est-ce que je mets Paul Bremer, celui que j'ai mis déjà pour gouverner l'Irak ? Ou je mets quelqu'un
d'autre ? On sent un peu d'ironie dans votre voix.
Ou je mets qui je mets ? Voilà. C'est ça, il y a une grande contradiction, si vous voulez. Nous avons administré, la France a administré la Syrie de 1920 à 1946. En devant bombarder en 1925, en 1945, etc. Elle a décidé de partir. Le Moyen-Orient s'administre eux-mêmes. Ce n'est pas l'Européen, c'est-à-dire l'Américain ou le Français qui dit « Voilà, ce pays s'administre mal, il se dispute entre la minorité alaouite et la majorité sunnite, nous allons mettre notre gouvernement. » Alors, il faut savoir qui on met, il faut savoir est-ce qu'on va garantir l'amélioration de la situation de la population. Ce que monsieur n'a pas dit,
Ziad Majed.
Ce que monsieur n'a pas dit, c'est que si Damas était tombé en septembre 2015, si Damas était tombé, et c'est vrai que les Russes ont sauvé Damas, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, il y aurait eu immédiatement, sur le champ, un génocide des Alaouites. Quant aux chrétiens, si on avait eu de la chance, ils auraient tous été expulsés vers le Liban. Quant aux églises, elles auraient toutes brûlé à Damas. Elles ont d'ailleurs brûlé quand les rebelles ont pris Maloula en 2013. Elles ont été saccagées. Et d'ailleurs, lorsque l'OTAN était au Kosovo, c'est-à-dire même devant nos troupes, 150 églises ont brûlé. Voilà ce qu'on aurait eu. Alors, est-ce qu'on aurait amélioré la situation de la population ? Je n'en suis pas sûr. Parce que c'est vrai que Bachar al-Assad, et vous l'avez dit, est une terrible dictature politique. C'est pas la seule. Il y a d'autres dictatures dans le monde, la Chine par exemple, etc. C'est pas la seule. C'est une terrible dictature politique. C'est tout à fait exact. Mais au moins, à Damas, il y a la liberté religieuse. Je pense que si les gens que vous avez soutenus dans votre discours, sans parler de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, un régime qui est effectivement l'allié des Américains, mais qui est un régime où il n'y a aucune sorte de liberté, ni religieuse, ni politique. À Damas, il y a la liberté religieuse, il n'y a pas la liberté politique. Si, effectivement, si les rebelles qu'on veut aider, que vous voulez aider aujourd'hui, prennent Damas demain, vous n'aurez ni la liberté politique, ni la liberté religieuse.
La réponse c'est ça, de Ziad Majed.
Oui, alors, premièrement, c'est évident que l'Arabie et la Turquie et le Qatar interviennent, mais moi je parle de ceux qui bombardent avec leur aviation la population civile, ceux qui commettent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, d'où il n'y a ni l'aviation saoudienne qui bombarde Alep, ni l'aviation turque qui bombarde Damas. Donc ça, c'est un sujet souvent pour défendre la Russie et l'Iran. Où sont le Qatar et l'Arabie ? Ça, c'est, je pense, une question marginale.
Ils sont occupés à bombarder le Yémen.
Oui, exactement. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, on parle de la Syrie, on peut parler d'autres choses, de l'Ukraine, du missile russe qui a abattu un avion civil. Donc ce n'est pas la question qui m'intéresse de toute façon.
La question
ce qui m'intéresse, c'est le peuple syrien. Alors, il y a ceux qui veulent toujours effrayer l'opinion publique et qui veulent créer des sensations, qui parlent des églises qui vont être brûlées. On est dans soit la science-fiction, soit dans des scénarios pour le futur qu'on ne connaît pas encore.
Ils ont brûlé à Maaloula.
Ils n'ont pas été brûlés à Maaloula. Ça, c'est la propagande du régime syrien et des Russes.
Allez à Maaloula.
Alors, oui, je connais très bien, j'ai des amis là-bas. Et je suis de la région et je connais très bien la situation sociologique et je ne parle pas seulement de loin et avec des grands titres.
Vous donc, savez la très question, bien que
la question de l'hôpital.
Non,
je sais très bien. Les hypothèses ne sont pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a une expérience de 5 ans. Il peut y avoir, évidemment, comme il y a eu en France après la libération de l'Allemagne, il peut y avoir des réactions violentes et je ne dis pas que la solution en Syrie va être une solution facile, ça va être extrêmement compliqué, ça va prendre beaucoup de temps pour créer une réconciliation nationale après tout ce que la majorité a subi. Au niveau des massacres, on parle souvent de l'hypothèse que les minorités sont menacées. Et oui, je suis d'accord, les minorités dans le Moyen-Orient sont menacées aujourd'hui. Mais je sais que depuis 5 ans en Syrie, la majorité musulmane sunnite est massacrée et que pour protéger les minorités, ce ne sont pas les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui protégeront les minorités. Ce qui protège les minorités, c'est la fin de ces crimes-là exactement. Et j'ajouterai là, à ce niveau, l'expérience irakienne n'est pas ce qu'on parlait de la Syrie. Paul Bremer, il a dissous l'État irakien. Dans la Syrie, c'est pas une question de dissoudre cet État-là. Et l'intervention, c'est pas une invention à l'irakienne. C'est juste d'arrêter les crimes de guerre.
Ziad Majed, une question. Il y a aujourd'hui des rebelles dits modérés, oui, qui ne sont probablement modérés pour une bonne part que sur le plan lexical, parce qu'en réalité, ce sont des extrémistes qui seraient susceptibles de diriger la Syrie si d'aventure Bachar al-Assad s'enfuyait.
Oui, alors premièrement, modéré, extrémiste, ce sont des mots liés à un logiciel occidental. Modéré et extrémiste en Syrie veut dire autre chose. Si on parle de modéré par rapport à l'Occident, par rapport au régime Assad, par rapport aux Russes, ça c'est une question qui nous concerne là, et qui concerne les Syriens d'une manière différente. Modéré et extrémiste, donc parfois peut créer un faux débat. Mais il y a en Syrie aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes qui ont pris les armes après avoir manifesté pacifiquement pendant 6 mois pour un changement du pouvoir. On peut aujourd'hui, avec une intervention politique internationale, après avoir arrêté les massacres, parler d'un certain gouvernement de coalition nationale qui fait la guerre à Daesh au nom d'une nouvelle majorité politique syrienne. Mais sa condition, c'est le départ de Bachar al-Assad. Il ne peut pas y avoir une nouvelle majorité politique syrienne qui amène des représentants des minorités et de la majorité avec Bachar al-Assad au pouvoir. Donc, des notables alawites, des notables chrétiens, des gens laïcs, des gens de gauche, des gens de droite et des représentants des groupes armés, y compris certains groupes
mais
islamistes.
Mais s'il ne veut pas partir, puisque Bachar al-Assad ne partira pas si on le lui demande.
Alors la guerre va continuer s'il ne veut pas partir et ça va créer
de
plus en plus.
Donc ça signifie que l'Occident, puisque je ne vois pas quelle autre puissance pourrait intervenir, l'Occident avec en quelque sorte la complicité, l'aide, je ne sais pas quel terme employer, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, devrait chasser Bachar al-Assad.
Absolument. La solution en Syrie aujourd'hui, après toutes les expériences qu'on a connues, après 46 ans du règne de la famille Assad, père et fils, après la quantité de crimes de guerre, on a aujourd'hui une conclusion assez claire, c'est que pour passer à une solution politique, il faut le départ de Bachar al-Assad. Pour combattre Daesh d'une manière efficace et tout autre groupe extrémiste, pour les Syriens extrémistes et qui menacent aussi la sécurité mondiale, on doit passer par le départ de Bachar al-Assad pour que la nouvelle majorité politique syrienne puisse combattre Daesh de manière efficace et pour qu'une réconciliation nationale entre les communautés différentes et pas seulement entre les tendances politiques différentes puisse tourner la page de 46 ans du règne des Assad et 5 ans de barbarie en Syrie.
On a bien compris effectivement ce que vous préconisiez pour la situation. Un mot de conclusion, Renaud Girard.
Bon, alors quand on parle de massacres, c'est vrai qu'il y a des massacres. En fait, ils sont des deux côtés. La guerre, ce sont des massacres. Lorsque les Russes ont pris Berlin, où les Américains et les Anglais ont bombardé Dresde, ce sont effectivement, la guerre, ce sont toujours des massacres. Il y a quand même 80 000 soldats de l'armée syrienne, qui sont d'ailleurs pas tous alawites, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sunnites, qui aussi, la femme de Bachar al-Assad est sunnite, Ali Mamlouk, le chef des services secrets, il est sunnite. Donc, il y a quand même 80 000 tués. Donc, c'est une guerre qui est effectivement atroce et qui est menée, que les Russes font la guerre comme ils font à Grozny, effectivement, avec des bombardements massifs. Si vous voulez, effectivement, effectivement, si vous arrivez, si vous avez une solution,
Renaud Girard,
si vous avez une solution pour effectivement faire une Syrie démocratique, mais il faut bien la préparer parce que ça n'a pas été bien préparé en Libye et ça n'a pas été bien préparé en Irak. Et c'est très difficile. Recoloniser un pays, et est-ce que les Américains et les Français et les Anglais sont prêt à recoloniser le pays et à l'administrer, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr qu'il soit capable. Et je ne suis pas sûr même que ce soit notre intérêt de Français d'aller recoloniser le Moyen-Orient.
Non, on terminera là-dessus. Merci.
Si, quand vous faites la guerre pour chasser un régime, ça s'appelle la colonisation. Et lorsque Jules Ferry avait parlé d'ailleurs de la mission civilisatrice de la colonisation.
On est dans une autre époque
aujourd'hui. Vous nous dites.
Il y a aujourd'hui le droit international, il y a les conventions de Genève.
Et donc, je viens civiliser la Syrie, j'y viens par
non,
la force.
Non, c'est pas les Syriens qui sont barbares, c'est Bachar al-Assad, monsieur.
Merci, messieurs, je vais civiliser le débat. Je vais civiliser.
C'est pas le peuple syrien qui n'est pas civilisé, c'est Bachar al-Assad qui est barbare et ses alliés et ceux qui le défendent.
Mais
le peuple syrien,
nous en restons
donner des leçons qu'à civilisation.
Le peuple syrien est aussi à Damas et aussi à Alep. Il y a beaucoup. Peut-être
Renaud Girard,
c'est la naissance de la civilisation humaine qui a eu lieu là-bas.